La prédication protestante. La prédication protestante. Chaque dimanche, un pasteur propose son interprétation d'un texte de la Bible.
Bonjour à tous. Luc Goyot, pasteur de l'église évangélique de Colomiers. Très heureux de partager ce moment de méditation biblique avec vous pour la deuxième fois sur Radio Présence. C'est vraiment une joie pour moi de participer à cette émission. J'aimerais parler avec vous d'un événement extraordinaire. Pour nous les chrétiens, l'événement le plus extraordinaire, le plus important qui se soit déroulé dans l'histoire, un événement qui est pour nous un sujet à la fois d'une joie immense et également un sujet de peine profonde, parce que Jésus, celui que nous aimons tant, notre Sauveur, a connu un moment terriblement tragique. Et certainement que beaucoup s'interrogent par rapport à cet événement, et qu'il y a beaucoup de conceptions sur cet événement qu'il convient de clarifier à la lumière des Écritures. En fait, beaucoup de personnes connaissent le destin tragique de ce personnage célèbre qu'est Jésus. Mais ils s'arrêtent souvent à parler d'un événement historique parmi d'autres. Or, la croix n'est pas un simple événement historique. Elle est le point central de l'histoire de l'humanité. La croix, ce n'est pas l'histoire d'une simple erreur judiciaire parmi d'autres. Nous savons que l'histoire ne manque pas d'erreurs d'appréciation commises par la justice des hommes. Elle n'est pas non plus l'histoire de la mort d'un héros de la foi qui deviendrait ainsi un martyr. Là aussi, l'histoire, hélas, ne manque pas d'être alimentée par de tels récits. La crucifixion de Jésus est bien plus que tout cela. Elle ne fait pas que marquer le souvenir et la mémoire des hommes, mais elle va surtout changer le cours de l'histoire. L'homme qui était jusque-là séparé de son Créateur à cause du péché est désormais réconcilié avec lui. L'homme peut réellement vivre libre en Christ. Le trône et la sainteté de Dieu lui sont à nouveau accessibles. Le voile a été déchiré, c'est ce que nous disent les évangiles. Au moment où Jésus meurt sur la croix, le voile a été déchiré, ce qui signifie que dans le temple, ce voile qui séparait les hommes de la présence de la sainteté de Dieu sous peine de mort n'existe plus. Il est coupé en deux. Et nous avons, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous le dit, maintenant un libre accès au trône de Dieu. Nous verrons deux points qui vont nous éclairer sur ce qui s'est réellement passé à la croix et qui différencie cet événement historique majeur de tous les autres. Le premier point, c'est que la crucifixion de Jésus n'est pas le résultat d'une erreur judiciaire, mais de la volonté souveraine de Dieu. Le prophète Ésaïe, dans son chapitre 53, prédit, plus de 7 siècles avant l'événement, avec précision, ce qui va se passer à la croix. Et au verset 10 de ce chapitre, Ésaïe précise ceci: « L'Éternel a voulu le briser par la souffrance. » L'Éternel a voulu. Certaines versions disent « Il a plu à l'Éternel ». Je préfère cette version « Il a voulu ». Je ne pense pas que Dieu ait pris plaisir à cela. Mais il l'a fait parce que de cela dépendait notre salut. Au verset 5, nous avons le but de cette volonté divine. Il était blessé pour nos péchés. brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Jésus connaissait la volonté de son Père pour lui, et il s'y est soumis. Jésus ne subit pas la croix. Il s'engage volontairement à la croix. Nous pouvons le constater dans plusieurs de ses déclarations. Tout d'abord dans Jean chapitre 10, verset 11, Jésus va déclarer ceci, « Je suis le bon berger ». C'est une phrase que nous connaissons bien, nous les chrétiens, mais il ajoute, « Le bon berger donne sa vie pour ses brebis ». Dans le même chapitre, un peu plus loin, il dit ceci, « Je connais mes brebis et elles me connaissent comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Amen. » Au chapitre 13 de l'évangile de Jean, toujours, nous voyons que Jésus partage la scène avec les disciples et dit connaître celui qui va le trahir. Et il ne fait rien contre lui, ce qui montre qu'il accepte. À deux reprises, Pierre, l'apôtre, ignorant le destin de son maître, va essayer d'empêcher Jésus de donner sa vie. Lorsque Jésus lui annonce son procès, sa mise à mort, il reprend Jésus en lui disant « À Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus lui répondra avec beaucoup de vigueur et de fermeté « Arrière de moi, Satan, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. » Cela peut paraître sévère de s'adresser ainsi à l'apôtre Pierre, mais simplement, ce n'était pas contre Pierre que Jésus réagissait à ce moment-là. C'est contre le diable qui, au travers de la bouche de Pierre, essayait de l'inciter à ne pas accepter sa mission et son destin. Autre exemple, lorsque Jésus est arrêté, Pierre brandit son épée et frappe un des serviteurs du souverain sacrificateur à l'oreille. Mais Jésus lui répond que s'il voulait, il pourrait appeler son père pour qu'il lui envoie 12 légions d'anges pour le défendre. Mais il lui fait remarquer aussi qu'il faut que les Écritures s'accomplissent, notamment celles que nous avons citées dans Ésaïe 53. Enfin, on sait que le combat que Jésus a mené à Gethsémané a démontré qu'il voulait se soumettre à la volonté de son Père. Au plus fort de l'agonie, alors qu'il parle avec son Père et lui demande s'il n'est pas possible que ce destin soit écarté, il va finir par se raisonner et dire « Non pas ma volonté, mais ta volonté. » Quel exemple extraordinaire nous donne Jésus. Nous voyons bien là, mes amis, que Jésus ne subit pas la croix. Il n'est pas un martyr ordinaire. Il n'est pas victime d'une erreur judiciaire. Il décide bel et bien de mourir pour nous sauver. C'est sa décision. Il l'assume pleinement. Il obéit parfaitement à la volonté de son Père. Amen. Le deuxième point que je voulais voir avec vous, c'est que la souffrance ultime de Jésus à la croix n'a pas été simplement de supporter le supplice de la crucifixion, mais de porter sur lui les péchés de toute l'humanité. Nous pouvons avoir une compréhension très, très humaine de la croix, et c'est normal, légitime, et quand on sait ce qu'est la crucifixion, ce qu'elle peut faire endurer à un homme, bien sûr que la première chose à laquelle on pense, c'est cette souffrance physique terrible à laquelle a été soumise notre Seigneur. Mais nous devons comprendre que Jésus n'est pas juste un innocent qui est exécuté. Jésus ne souffre pas la même chose que n'importe quel crucifié. Comme je l'ai dit dans l'introduction, d'autres l'ont été avant lui et après lui. Mais ici, nous avons affaire à Jésus, qui est parfaitement saint et qui n'a commis aucun péché. C'est la première chose qui le démarque des autres. Ce n'est pas une injustice, c'est plus qu'une injustice, puisque lui n'a jamais rien fait de mal. Le deuxième brigand reconnaîtra d'ailleurs que lui mérite son sort, mais que Jésus est juste et saint, et il ne devrait pas être là à côté de lui. Paul, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, d'autres écrivains, toute la Bible est en accord pour dire que Jésus n'a commis aucun péché. Or, celui-même qui est saint, qui n'a commis aucun péché, bien plus qui a en horreur le péché, même s'il aime le pécheur, va devoir porter sur lui les péchés de l'humanité tout entière. Il va devoir se revêtir de l'insupportable. J'aimerais que nous puissions réaliser ce que peut représenter la somme de tous les péchés commis sur terre depuis la création et jusqu'à la fin du monde. Avec ce qu'il y a de pire et de plus atroce, Jésus prend tout cela sur lui. J'aimerais vous donner une image. Essayez d'imaginer quelques instants la réaction d'un maniaque de l'hygiène corporelle sur qui vous jetez de la boue récupérée dans une porcherie. Terrifiant comme image, non? Mais c'est sans commune mesure avec ce que Jésus a dû endurer. Oui, il a souffert physiquement à la croix, mais la vraie souffrance qu'il a subie, elle est spirituelle. C'est celle de porter les péchés de l'humanité. Nous voyons encore ici que nous ne sommes pas dans un événement de l'histoire commun, banal, mais dans quelque chose d'extraordinaire, qui change le cours de l'histoire, parce que le fait de porter nos péchés va nous permettre à tous d'obtenir une fois pour toutes, sans avoir besoin de sacrifice, le pardon et la rémission de nos péchés. Je crois que nous ne pourrons jamais réaliser pleinement la souffrance endurée par le Seigneur, parce que nous ne sommes pas saints et que nous ne porterons jamais l'ensemble des péchés de l'humanité sur nous-mêmes. Dans Matthieu, chapitre 27, verset 46, nous lisons la quatrième parole prononcée par Jésus à la croix. « Eli, Eli, lama sabachthani », c'est-à-dire « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et nous savons pourquoi, à un moment donné, Dieu doit se retirer. Lorsque son Fils prend les péchés sur lui, Dieu ne peut pas rester. Dieu et le péché sont incompatibles. Mais la conséquence est extraordinaire. Nous lisons dans la première épître de Jean au chapitre 2, versets 1 à 2. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le Juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Plusieurs autres passages des Écritures dans l'Ancien Testament, nous l'avons lu dans Ésaïe tout à l'heure, mais dans le Nouveau Testament surtout, nous affirment que Jésus est mort pour obtenir auprès du Père le pardon de nos péchés. C'était le seul moyen, puisque le salaire du péché, c'est la mort. La mort spirituelle, la mort éternelle, l'enfer. Il fallait que quelqu'un meure à notre place pour que nous échappions à cette mort. Jésus l'a fait. Ésaïe, toujours dans ce chapitre 53, nous dit que le châtiment qui devait tomber sur nous est tombé sur lui. Ce que fait Jésus est extraordinaire. Jean, dans le texte que nous avons lu, nous parle d'un avocat. Mais quel avocat ? Connaissez-vous un avocat qui non seulement défend son client, mais au moment où la sentence est prononcée, dit « Ne le mettez pas lui en prison, ne le tuez pas lui, moi j'y vais à sa place. » Bien sûr, il n'y a pas de tel avocat sur terre et c'est compréhensible. Mais Jésus fait l'incompréhensible. Son amour le pousse à l'incompréhensible, à l'extraordinaire. Aucun avocat ne va à l'échafaud à la place de son client. Jésus va à notre place payer le prix que nous devions payer. Nous lui devons une éternelle reconnaissance. Et je voudrais vraiment vous amener à la réflexion devant un tel acte, pour savoir ce que vous allez faire. Allez-vous simplement constater que cette histoire de la croix est tout à fait extraordinaire, exceptionnelle, ou le fait qu'elle l'est vous conduira-t-il à accepter ce salut que Jésus vous offre gratuitement? En conclusion, j'aimerais vous dire que le condamné à mort dont nous avons parlé ce soir, s'il est unique en son genre, pour les raisons que nous avons évoquées, l'est encore bien plus par le fait qu'il est encore vivant aujourd'hui. Les apôtres qui l'ont côtoyé pendant 3 ans, hormis Judas bien sûr, témoignent tous de ce qu'ils ont vu Jésus après sa mort. En effet, 3 jours après son exécution, Jésus est ressuscité des morts. Amen. Il est réapparu aux disciples plusieurs fois pendant une durée de 40 jours avant d'être enlevé au ciel pour s'asseoir à nouveau à la droite de Dieu. Mes amis, Jésus ne subit pas la croix. Il y va de son propre gré. Jésus ne fait pas que mourir comme un crucifié, mais il porte les péchés de l'humanité. Jésus meurt, mais il ressuscite. Comment encore ne pas considérer cet événement comme exceptionnel? Et nous n'avons pas parlé des miracles et des phénomènes dont nous parlent les évangélistes au moment où Jésus meurt sur la croix, tremblement de terre, le ciel qui s'obscurcit, etc. Aucune histoire de jugement et de condamnation n'est semblable à celle de Jésus. Et nous devons bien comprendre au travers de tout cela que ce n'est pas un événement de l'histoire, mais c'est l'événement qui marque l'histoire de l'humanité. Nous l'avons lu, Jean nous dit qu'il est aujourd'hui notre avocat auprès du Père. Il plaide notre cause, rappelant à Dieu à chaque fois que nous péchons qu'il a pris sur lui notre péché et qu'ainsi nous ne pouvons plus être condamnés, comme nous le dit l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains au chapitre 8 et au verset 1. Il n'y a maintenant plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. L'apôtre Jean, toujours dans sa première épître, au chapitre 1, versets 8 et 9, nous dit ceci: « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » J'aimerais, en cette fin de méditation, vous appeler à reconnaître que vous êtes pécheur. Si ce n'était pas le cas, Jésus n'aurait pas fait tout cela, bien sûr. À le reconnaître, à le confesser devant Jésus, directement devant Jésus. Croire l'œuvre qu'il a accomplie à la croix et demander pardon. Demander d'être lavé et purifié de vos péchés. Connais-tu un condamné à mort qui refuserait de faire appel à un avocat prêt à mourir à sa place? Vas-tu refuser ce que Jésus a fait pour toi, alors que ça te délivre de la mort éternelle? Oui, cet après-midi, prends Jésus comme avocat. Il est mort à ta place et il faut que tu le choisisses pour plaider ta cause auprès de Dieu. Ainsi, tu pourras le suivre et te diriger selon ses commandements et tu connaîtras une vie nouvelle. Ainsi, la croix n'aura pas changé que l'histoire du monde, mais elle aura changé aussi ton histoire personnelle. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.
Merci pour la croix, pour le prix payé, car tu t'es donné sans rien retenir. Précieux Jésus, ils sont pardonnés nos nombreux péchés, couverts par ton sang, ils sont oubliés. Merci Jésus. À toi mon amour, et tout mon cœur Seigneur, je ne comprendrai jamais pourquoi tu m'aimes. Tu es mon bonheur, ma suprême joie, mais voici le plus grand miracle à mes yeux, c'est que je fais ta joie. Tu as souffert, tu as pris nos peurs, donné ton amour, précieux Jésus. Tout est accompli, tu as triomphé, tu peux nous sauver si parfaitement. Merci Jésus, merci Jésus. À toi mon amour, de tout mon cœur Seigneur, je ne comprendrai jamais. à toi mon amour. À toi mon amour.